La route, une fois construite, il fallut l'entretenir. Les plus dévoués bouchaient les ornières le long de leur propriété. Mais chaque année venait le jour des prestations vicinales. C'était un impôt en nature, disparu depuis de nombreuses années déjà. Ces paysans pauvres préféraient payer de leur personne plutôt qu'avec du numéraire, si rare. Et de plus, c'était sur leur chemin qu'ils allaient travailler. Ce jour-là, chacun prenait pelle, pioche, râteau, cheval et charrette pour transporter la terre et les cailloux. Et tous passaient une journée joyeuse et animée, bien que fort laborieuse, à remettre en état cette route qui était la leur et qui, bon an mal an, voyait ainsi se réparer ses plaies les plus criantes. Pour l'autre route, la vraie, il y avait le cantonnier. Il cassait toujours les cailloux de la chanson, en petits tas bien alignés sur le bord. Mais aussi, il fauchait l'herbe des bas-côtés, curait les fossés pour l'écoulement des eaux, coupait les ronces envahissantes, les branches gênantes, faisait des pansements en pierre bien damés pour réparer les dégâts des grosses pluies d'automne. C'était sa route. Il plantait tout le long, selon son goût et la nature du sol, des cerisiers ou des acacias. Pour se protéger des intempéries et ranger ses outils, pour l'ombre de l'été et l'abri de l'hiver, il y avait sur chacune de ses routes une cabane, creusée le plus souvent dans le talus ou profitant du creux naturel d'un rocher. Une grosse pierre bien taillée ou un tronc d'arbre soigneusement équarri y servait de siège. C'était la baraque du cantonnier que les piétons nombreux, menacés par l'orage, s'efforçaient d'atteindre au plus vite. Beaucoup ont disparu, emportés par l'élargissement des routes, dont celle qui jalonnait en son milieu la longue côte montant vers ma maison. D'ailleurs, le cantonnier, devenu employé des ponts et chaussées, est devenu le membre d'une équipe. Il circule dans sa fourgonnette orange d'un bout à l'autre du canton et n'a plus besoin de ses cabanes rustiques dont chacune avait une personnalité et un charme désuet. Sur cette route primitive, les rares voitures qui passaient étaient immédiatement reconnues, celles vertes du marchand de vin, grand chasseur qui profitait de ses tournées pour tirer le perdreau ou le lapin de Garenne, celle du châtelain avec son chauffeur à casquette, et un jour une voiture à chenilles du fils d'un industriel du bourg voisin qui, à l'étonnement de tous, quitta soudain la chaussée pour escalader la colline jusqu'à la chapelle et l'ermitage qui veillent sur le sommet. Les utilisateurs habituels étaient les gens des mâts qui allaient vendre leurs produits et faire leurs provisions, chacun à son jour, et qu'on reconnaissait de loin à la couleur de leur cheval. Parfois, on les arrêtait pour les charger d'une commission oubliée ou solliciter leur aide pour un travail prochain ou prendre des nouvelles d'un malade. Et pendant que la bête soufflait quelques minutes, chacun mettait la pause à profit pour une amicale causette permettant de se détendre. Quand on avait tant de racines, Adrienne Cazeille, 1979.
Bonjour, je suis Lionel Sauté, bienvenue dans L'Avenir est à la campagne, le podcast. Dans ce 7e épisode, on continue la conversation avec mon père au sujet de ses grands-parents, Jean, cantonnier en Dordogne, et sa femme Louise. Puis nous retrouverons Lola et Alex pour continuer la visite de leur jardin maraîcher à Gaillac dans le Tarn. Mais tout de suite, avec Daniel, mon papa, on parle de Jean, mon arrière-grand-père cantonnier qui cassait des cailloux et fabriquait des jeux pour les fêtes de village.
Toi, tu sais ce qu'elle est devenue, cette maison ?
Non, je n'y suis jamais repassé.
Donc toi, tu nais en 42, lui, il est mort en 51, il n'a plus que 9 ans à vivre, et elle est morte en...
49.
49. Et tu y allais à quelles occasions ? Tu les avais vues à
Les ai pas vues souvent.
T'as pas vu beaucoup ?
Je les ai pas vues souvent. On y est monté quelques fois, mais pas souvent. Et elle était toujours son tablier, toujours habillée, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits... À l'époque, à la campagne reculée, de vêtements noirs, les femmes étaient vieilles à 35 ans, les cheveux commençaient à blanchir. Et j'ai toujours connu, comme tu as vu sur les deux ou trois photos qui nous restent, un peu forte. Et les dernières années, je l'ai connue souffrante. On lui disait que c'était... Je me souviens que mes parents lui disaient que c'était une indigestion, que ça allait passer, etc. Et en réalité, elle est décédée d'un cancer de... Digestif, quoi. Je ne sais pas exactement lequel, mais bon.
Mais à la fin de sa vie, ils habitaient plus cette maison, si ?
Ah, si, si.
Si, jusqu'au bout.
Si, si, elle, quand elle est décédée, elle habitait encore là-haut.
D'accord.
Et après ça, mon grand-père, pour qu'il ne reste pas tout seul à 80, je ne sais plus combien, 80 ans, mes parents ont décidé de l'héberger chez eux, de le faire venir à Terrasson, dans la maison. Il y avait une chambre de libre en haut. Il est venu, mais c'était difficile parce qu'il n'a jamais été habitué à habiter un étage, à habiter une ville. Terrasson devait avoir 5 000 habitants, mais pour lui c'était la ville, quoi. Il n'en avait jamais vu autant d'animation, quoi. Il a vécu quelques années là, de 49 à 51. Et puis il est mort violemment en 51, puisque on ne saura jamais pourquoi.
Il est passé par la fenêtre.
Il est passé par la fenêtre. Est-ce qu'il a eu un AVC qui lui a fait prendre la fenêtre pour la porte? On préfère cette hypothèse plutôt que celle du suicide conscient. Voilà.
Toi, t'en penses quoi?
Ah ben,
je t'en sais rien.
Ben oui, je peux pas.
Non, mais vous en aviez parlé? Vous aviez
essayé de... Oh, ma mère s'en est voulu pendant des années. Parce que ce matin-là, elle est montée, elle lui a ouvert les volets, comme d'habitude, mais plus tard que d'habitude, je sais pas. Et elle lui aurait dit, alors papy, on fait la sieste aujourd'hui? Et une heure après, il passait par la fenêtre. Est-ce que ça avait été reçu par lui comme une chose atroce, insupportable? Elle s'en est voulu toute sa vie. Oui, toute sa vie, elle s'en est voulu, ma mère. Mais personne n'a pu savoir. Et j'étais présent, je l'ai vu tomber.
Ah oui?
Ah oui, oui. J'ai d'abord vu ses pieds. Pendant que 3 ou 4 secondes, il se tenait au rebord de la fenêtre. Et ensuite, il n'a plus eu assez de force pour tenir. Il est tombé sur la rambarde métallique du balcon, la tête. Ce qui fait que ça l'a fait complètement chavirer et retomber en bas, un étage encore. Ah oui, j'étais...
C'est sacrément traumatisant, cette affaire, quand même.
C'était sous mes yeux. Ouais. Et j'avais donc 9 ans. Ouais. Mais c'était des taiseux, hein. C'est pas des gens qui parlaient beaucoup à cette époque. On était souvent taiseux dans cette... On n'était pas envahis par les réseaux sociaux et la télévision, mais les livres, ça n'existait pas. Voilà.
Sur la route de Louviers, sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier,
et qui cassait des tas de cailloux,
et qui cassait des tas de cailloux, pour mettre sur passage des roues.
C'était un extrait de la chanson « Sur la route de Louviers » des Quatre Barbus qui date de 1958. On continue tout de suite la visite du jardin maraîcher d'Alex et Lola à Gaillac dans le Tarn, où ils nous parlent notamment de leur méthode de culture.
Là, vous êtes dans votre troisième année, c'est-à-dire la dernière, parce qu'après, vous êtes mis à la porte.
On n'est pas jeté.
En tout cas, l'idée, c'est quand même de trouver
l'idée,
au bout de
c'est
la troisième,
quand même,
ouais. De quoi voler de ses propres ailes et
exactement.
S'installer tout seul.
De faire la transition.
Alors, il y a 1 hectare par entité de travail. Là, vous êtes 2 à travailler, donc. 1 hectare de plein champ et 3 serres de 50 mètres sur 9,30.
C'est ça. La troisième, on l'a demandé en deuxième année. La première année qu'on a faite, on l'a faite avec 2 serres. Parce qu'ils considèrent que pour tester ton projet, dans un premier temps, en tout cas la première année, c'est suffisant. Et ça l'était. Même si sous serre, c'est compliqué de gérer les rotations quand on a moins d'espace, mais on s'en est quand même sorti. Et puis deuxième année, du coup, on a demandé une troisième serre, parce que dans notre projet, du coup, c'est vrai que le fait de travailler à 2 à temps plein, nous, par la suite, on compte s'associer, être en GAEC, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se rémunérer chacun au moins un SMIC. Et par rapport à la logique de production, bah, il faut quand même de la surface, il faut quand même des serres, si on veut réussir à se générer là ce chiffre d'affaires. Donc,
quand vous arrivez ici, vous avez un modèle de culture, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de façons d'envisager la culture, même en bio.
Totalement.
Effectivement, entièrement bâche plastique, avec les mains, enfin, il y a de plus en plus d'appareils low-tech, il y a de plus en plus des
totalement.
Gros tracteurs ou pas.
Oui.
Tu vois, je pense au modèle de Jean-Martin
Fortier
au Québec, etc.
Donc il y a plein de façons en fait de faire. Vous avez un modèle qui vous est conseillé, vous êtes poussé vers un endroit,
alors,
vous êtes laissé tout seul.
En fait, quand on arrive à l'essor, on arrive déjà avec un projet qui est censé être un peu travaillé et mûri. Donc du coup, avec des envies d'aller vers tel ou tel modèle ou un mix de plusieurs trucs, parce qu'en fait, il y a tellement de choses. Je pense qu'il y a autant de modèles qu'il y a d'agriculteurs en route, quoi. On peut pas faire une généralité, bon, à part certains modèles comme le modèle Fortier où il en a fait une méthode et c'est un modèle qui fonctionne très bien. Avec pour nous des valeurs un peu différentes des nôtres, mais qui avec beaucoup de bonnes idées et beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'accompagnement
direct. Pourquoi des valeurs différentes des nôtres ?
Bah, dans la logique de la biodynamie, c'est vrai que nous, on est dans un truc où on essaie d'avoir le moins d'intrants possible, d'être le plus le plus respectueux. Je pense que ça, on essaye tous de le faire en bio malgré tout, peu importe les modèles, on a tous cette constante là, mais c'est des approches qui sont différentes, et ça, je pense que c'est conditionné par l'expérience de vie qu'on a avant et
peut-être aussi un peu.
Il y a clairement une recherche d'efficacité
oui, totalement.
Chez Fortier qui est très présente.
Ça, c'est une certitude.
J'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de plastique quand même aussi dans sa
Après, il y a beaucoup de plastique, c'est des toiles tissées. Les toiles tissées, c'est réutilisable et il y a une logique aussi de récupération. Enfin, c'est ce que les personnes qui travaillent en modèle Fortier avancent aussi et ça se tient. Après, c'est une question de regard et de point de vue. Je pense qu'il n'y a pas un modèle qui est parfait dans l'absolu, et il y a des modèles qui fonctionnent, il y en a plusieurs qui fonctionnent, il n'y a pas que le modèle Fortier, ça c'est sûr. Après, on sait que le modèle Fortier il fonctionne bien parce qu'il y a telle ou telle méthode, mais ça n'empêche qu'il y a quand même d'autres opportunités et d'autres façons de faire qui fonctionnent tout aussi bien avec d'autres valeurs, et surtout un autre point de vue, un autre regard sur comment on a envie de faire. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même compliqué au quotidien, dans le sens où c'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, et en fait cet investissement là on peut en profiter que si on est en phase, je pense, avec la manière dont on travaille, et ça c'est conditionné par l'expérience qu'on a eu auparavant.
Vous travaillez combien de temps par semaine tous les deux?
Je sais pas si on est, nous on est pas
vous reposez combien de temps par semaine, ça ira peut-être plus vite.
Non, nous
là, après, ces derniers temps, on a un peu plus tranquille là quand même.
Oui, bon, on est là, on est fin janvier, on est en janvier, mi-janvier. Mais donc
ça repart dans deux jours.
Mais en gros, non, après nous, c'est vrai qu'on est quand même pas les plus on n'est pas les personnes qui géreront le mieux le temps de travail, mais bon, c'est voué à s'améliorer. Là, si on prend les deux premières années d'installation, on est à 60 heures semaine de moyenne lissée sur l'année.
Chacun.
Ah oui. Donc,
Et dans votre montage économique, vous arrivez à... Vous sortiriez
Alors pour l'instant non, mais à la fois en fait c'est aussi par l'endroit dans lequel on est, c'est-à-dire l'essor maraîcher, il y a une stratégie de... Vu que c'est une pré-installation, que c'est pas une vraie installation, il y a vraiment cette recherche de déjà tester son projet, et après en fait par rapport aux sous qu'on arrive à gagner, l'objectif premier n'est pas de se rémunérer, en tout cas pendant les trois premières années, mais ça va plutôt être d'investir dans du matériel pour la vraie installation à la suite, qui du coup va réduire les coûts d'installation et nous permettre d'être plus autonomes financièrement et tout ça. Après, c'est vrai qu'on pourrait se rémunérer. Si on le souhaitait, à la fin de chaque mois, on pourrait dire à l'essor, ok, vous nous sortez, 500 euros, 1000 euros, ce que vous voulez. Il y a une fiche de paye du coup qui est établie. Et là-dessus, en fait, vu que c'est une association, c'est à nous de prendre en charge patronale et sociale, enfin tout le bazar. Donc en gros, c'est 40% de ce qu'on se verserait qui serait pris directement dans ses charges. Ça peut être aussi une stratégie pour s'ouvrir des droits au chômage par la suite. Mais ça, on va dire qu'on le voit plutôt vraiment dans le dernier temps, en troisième année, ou à la fin de l'essor, s'il nous reste beaucoup d'argent sur le compte, beaucoup de trésor, soit on le réinvestit dans du matériel qu'on n'a pas encore acheté, ou bien là, à ce moment-là, on se rémunère. Mais sur les trois premières années, on est plus dans une logique d'investissement pour se faciliter la suite que dans une logique de rémunération.
Oui, pour l'instant, c'était pas un objectif de se verser un SMIC Ça viendra par la suite.
Non. Après là, c'était vraiment à tester la capacité à produire des légumes. Cette capacité-là, on l'a poussée un peu l'année dernière, où on a essayé de se faire vraiment l'hectare entier dehors. On s'est dit, on nous met à disposition un hectare, et ben on va essayer de le faire pour s'en rendre compte et voir déjà si on en est capable, parce que clairement, dans notre modèle aujourd'hui, il nous faut ça au moins pour qu'on arrive à se rémunérer à deux. Sinon, ce serait chaud, je pense. Donc on verra.
Moi, je vous ai connu, comme je le disais tout à l'heure, avec un stand magnifique sur le marché de Saint-Antonin au Leval. Et donc votre capacité à produire des légumes, moi je l'ai vu, quoi. Ça marche. Et bon, alors du coup, on fait un petit tour, parce que là, par exemple, on disait quelle méthode de culture, en tout cas dans la serre où on est là, il n'y a pas un poil de plastique, il y a juste un petit voile de forçage pour c'est quoi? C'est des betteraves ou...
C'est des petits radis.
C'est des petits radis, pardon.
On a semé là, en fait, il n'y a pas très longtemps. Du coup,
okay, c'est un peu un pari. On a une planche de salade qui est quasiment prête à récolter. maternité, enfin une demi quoi. On a une qui est encore adolescente. Une, on a des petits bébés sur la troisième. Et sur la deuxième moitié, il y a de la mâche. Et là.
Et alors ici, il y a une moitié de radis et une autre moitié de roquettes. Du coup, qu'on a fait en semi direct. Et là, c'est deux planches de salade. Et c'est aussi des salades, mais c'est des variétés. C'est des batavia rouges.
Et là, il y a une planche, une dernière planche qui est en
qui est en stand by parce qu'il y a des petits problèmes d'infiltration d'eau sur le côté. Et du coup, elle est très 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 humide. Et donc, on peut pas la travailler.
Et donc le travail se fait au tracteur là sur chaque planche.
C'est ça.
Et ensuite désherbage, ça se passe
manuel.
Donc c'est uniquement manuel.
Donc ouais.
Là, manuel. Oui.
On a fait le choix de pas mettre de bâches plastiques. On assume jusqu'au bout.
Mais elles sont propres, hein, en tout cas.
C'est vrai, du coup, je pense que c'est aussi un facteur de temps de travail très important pour nous. Mais après c'est surtout en été. Après c'est vraiment une gestion de l'herbe et c'est une gestion aussi de l'organisation face à l'herbe. Qu'on commence à apprendre petit à petit, mais bon, ça se fait avec le temps et c'est vraiment une logique d'organisation qui nous permet de maintenir les planches plutôt propres, enfin, pas
et
trop d'herbe.
Un peu d'amendement sur les, du compost ou du
fumier. De manière générale, nous, c'est que du fumier qu'on met. Du coup, on a un tas de fumier. Il y a un éleveur qui est pas très loin qui nous vend du fumier, il nous livre directement ici.
C'est du fumier de quoi ?
C'est du fumier de vache.
De vache ?
Ouais. Et en fait, quand il nous le livre, nous, on le met en andin. C'est une sorte de gros boudin pour le faire composter. Parce que du coup, avec la biodynamie, on va mettre des préparations dans le compost qui vont agir sur le tas pour mobiliser telle ou telle substance qu'il y a dedans pour après, quand on va le mettre sur les cultures, le restituer aux cultures. Donc, c'est de la manutention. C'est encore une fois du temps supplémentaire de travail. Nous, on s'impose des trucs un peu plus drastiques, mais du coup, c'est plus en phase avec nos valeurs et c'est aussi ça qui nous fait plaisir en fait, au quotidien dans notre travail et qui nous permet de tenir parce que sinon, ce ne serait pas possible. Et donc du coup fumier principalement et après là le compost
c'est ça sur la planche là sur les semis de radis il y a du
exactement et en fait bah ça c'est une méthode qu'on a apprise en première année.
C'est un compost qui vient d'où?
C'est un compost de la ville en fait, c'est la ville de Gaillac là, c'est les déchets verts de la ville, donc ça c'est purement végétal, il n'y a pas du tout de matière animale là-dedans.
Parce que moi on m'en avait dit un peu du mal de ce compost.
Ça dépend des
de
périodes.
Ville où il peut y avoir des microplastiques ou des
ça totalement. Et c'est vrai que c'est un truc qui est. Moi, je trouve que c'est un. Après, je pense que ça dépend des villes, ça dépend de la manière dont il est fait. Mais ça, c'est pas rare de tomber sur des petits morceaux de plastique ou une prise Ethernet. L'année dernière, on est tombé sur une prise Ethernet en l'épandant ou en désherbant, on s'est rendu compte de ça. Après, de manière générale, le compost en lui-même est plutôt sain. Parce qu'il y a des fois le problème du résineux avec les sapins de Noël qui sont balancés, le tuya ou tout ce genre de choses. Mais. Ouais, c'est ça. Il y a des périodes. Et nous, on n'a pas eu de soucis avec le compost, pour l'instant, particulièrement. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est assez chouette, parce qu'elle sert de paillage, donc elle limite l'herbe, elle facilite tout ce qui est semi-direct. Nous, c'est grâce à cette méthode-là qu'on a réussi à faire notre premier semi de carottes la première année. On en avait raté 7.
Sept séries.
Le Graal.
Ah ouais, la carotte, putain.
Moi, je fais un potager et la carotte, j'ai du mal
c'est
aussi.
Ouais, c'est compliqué. Et compost. Hein. Tu verras, ça, ça aide beaucoup. Et en fait, du coup, grâce à cette méthode-là, donc, on prépare la planche de manière normale, comme on la ferait pour...
Donc, petit tracteur avec un rotovateur, un truc qui tourne...
On essaye de limiter, essaye de pas trop utiliser les outils animés, mais après, pour les semi-directs, ça peut être compliqué. Et c'est là où le compost, du coup, facilite ça, parce que du coup, le compost est déjà très fin. Donc, ça fait un lit de semences nickel pour accueillir les graines. Et du coup, là, le début de planche, c'est pas jojo. Mais la structure est quand même beaucoup plus jolie que quand on est arrivé. La première année où on a travaillé ici, c'était compliqué. Hein. On a sorti des mottes à la main parce qu'on ne pouvait pas planter dedans. Le plein champ, c'était un désert. C'était quelque chose. Mais bon, petit à petit, on s'habitue à lui. Et puis, en fait, avec aussi, encore une fois, la biodynamie, on applique des préparations en plus du compost, qui sont la 500 et la 501. Là. C'est la bouse de corne et la silice de corne. Et il y a le compost de bouse aussi. C'est une troisième, là, pour à partir du moment où on vient incorporer de la matière organique ou tout ça. Et c'est vrai que la bouse de corne, on l'a épandue le plus de fois qu'on pouvait avant chaque culture. Le sol a vraiment réagi agréablement quoi, par rapport à tout ça. Alors, on dira peut-être que c'est aussi l'expérience du travail du sol qui a été améliorée sur la deuxième année et qui a permis de faciliter certains processus. Mais entre la première session, quand on a préparé nos planches pour la première fois, et quand la deuxième fois, quand on l'a fait au printemps l'année dernière, c'était beaucoup plus facile.
Les plantations qu'on a fait cet été, c'était du beurre.
C'était sympa, oui.
La première année, c'était de la.
Et sans forcément utiliser de rotavator. Du coup, nous, là, on a eu la chance aussi l'année dernière avec l'essor. Il y a une formation qui a été organisée avec l'atelier paysan. Mmh. Et du coup, autoconstruction d'outils. Et donc, eux, ils ont des outils autoconstruits où il y a des modes un peu de travail. Donc, travail en planche permanente avec que des outils à dents. Donc, alors, premier outil, c'est des disques qui vont monter une butte, mais après, tout le reste pour affiner, on n'est que sur du travail à dents avec plusieurs étages dessus où il y a des dents de vibro, des dents de RC-tri, un rouleau et tout le bazar. Et c'est vrai que le travail, en fait, est presque similaire à un travail de rotavator. Quand on le travaille dans les bonnes conditions et qu'on y arrive au passé au bon moment, c'est pas le plus simple parce que quand on a un timing et qu'on sait qu'on a des plantations où les salades elles sont déjà énormes et qu'on les regarde, il fait la planche est pas prête. Mais encore une fois, c'est l'organisation et ça s'est fait au fur et à mesure et ça se fait encore parce qu'on est loin d'être encore optimisé bien comme il faut. Mais bon, petit à petit, on tend vers ça. Et je pense qu'il n'y a qu'en faisant qu'on peut réussir à mieux s'organiser, à mieux gérer le temps, à mieux gérer toute l'organisation du quotidien.
Et puis, pour ça, l'essor maraîcher, c'est quand même un outil.
C'est qu'on arrive et tout est disponible.
Aussi, puis vous avez aussi des collègues qui échanger, partager les expériences, etc.
Totalement.
On continue un peu la visite.
Ouais, allez.
Parce que, et du coup, là, on reparlera de cette dimension collective qui est déjà là. Et puis tu disais que c'était visiblement au cœur de votre projet futur aussi.
Ouais.
Mais du coup, tu parlais de biodynamie, c'est une formation que tu as fait en plus. C'est toi qui as fait cette formation ?
Eh bien, en fait, la biodynamie, moi, je suis tombé dessus un peu par hasard avant de partir de Paris, là, quand on a commencé à se dire, allez, pourquoi pas aller vers l'agriculture.
Oui,
bah, du coup, ouais, en fait, en fouinant un peu sur Internet, en regardant un peu des modes de production, parce que moi, j'avais absolument aucune idée qu'il y avait autant de systèmes. Moi, la première fois que j'ai entendu Fortier, c'était en formation en BP. J'avais jamais entendu parler de ça avant. Il m'a dit maraîchage bio-intensif. Je lui ai dit, mais c'est un peu paradoxal. Enfin, moi, ça me semblait, dans mon esprit, c'était les cultures intensives, c'était pas bien, c'était tout ça. Enfin bon, après, avec le recul, on comprend un peu mieux la logique qui est derrière et elle se tient aussi d'une certaine manière. De se dire, on produit.
Oui, sur de la toute petite surface.
Petite surface, on arrive à sortir.
Des espaces, etc.
Ouais, non, c'est pour ça que dans la logique, il y a quand même.
Ça permet aussi, mine de rien, de limiter les mauvaises herbes, de
densifier. Oui, carrément. Ouais. Et en fait, par rapport à la biodynamie, du coup, l'approche que j'ai eue et comment j'ai un peu fondé le savoir par rapport à tout ça, et bien c'est grâce à mon maître de stage, où, en fait, donc ce fameux monsieur-là qui était sur le marché à Gaillac, qui du coup m'a pris en stage, donc c'était mon stage long du BPREA, parce que l'avantage du BPREA à Brun, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quand même 16 semaines de stage. Et en fait, dans ces 16 semaines de stage, il y en a 10 qui sont obligatoires avec la même personne pour qu'il y ait vraiment une continuité dans l'apprentissage et aussi de se rendre compte de voir l'exploitation à différents moments de l'année et de voir un peu comment ça évolue. Et donc cette personne a travaillé en biodynamie, donc j'ai vraiment compris et pratiqué à ce moment-là, en fait, pendant ces semaines de stage. Et puis après, par approfondissement, en faisant d'autres formations qu'on a fait à l'extérieur, en lien avec le MABD. Le MABD, c'est le mouvement pour l'agriculture biodynamique. Et du coup, il y a des formations qui sont organisées un peu partout en France sur différents thèmes parce que la biodynamie, ça touche tous les secteurs agricoles. Sur la grande culture, sur du maraîchage, de l'élevage, il y a vraiment de tout. Et du coup, en faisant ces petites formations, plus des bouquins, plus le savoir avec le maître de stage, on essaye de se mettre en place des choses et de suivre les principes, quoi. Et ça marche plutôt bien.
Ouais.
Deuxième serre, alors du coup on a des épinards, des blettes de toutes les couleurs. C'est quoi, coriandre ?
Ouais, coriandre.
Ah ouais, il y en a
plein. C'est la plante aromatique. Et là il y en a beaucoup, elle a bien poussé.
Ah mais ouais, à chaque fois sur le marché je me dis, mais vous en avez encore ? Bah oui, vous en avez encore.
Ouais.
Et ici on a une planche de mâche avant et là-bas une planche de salade.
Ouais.
Qu'on a déjà dû récolter.
Il y a beaucoup de ça là comme adventice, là c'est quoi ?
On dirait de la picride ou peut-être.
Oui. C'est pas le pissenlit.
Ah peut-être.
Peut-être. Bon, là, il y a beaucoup de. Et après, ici, en fait, en adventice, on a aussi beaucoup, beaucoup de vivaces. Et c'est ça qui est compliqué aussi à gérer dans l'herbe. C'est que, au quotidien, en fait, en fonction de l'endroit où on travaille, on peut avoir un pourcentage plus ou moins important de vivaces ou d'annuels. Et du coup, les annuels, en termes de gestion d'herbe, sont beaucoup plus faciles à gérer parce que, on les arrache, elles ne repoussent pas, quoi. Une vivace, et là, ici, on doit avoir des galeries de chardon, de ronces, de chiens dents. Je pense qu'en dessous, là, le sol est bien, bien garni comme il faut. Et donc, du coup, là, pour s'en séparer, c'est assez compliqué. Donc, on a des zones, des fois, sur les planches où c'est rempli. Par exemple, ici, là, on le voit, là, d'un coup. Là.
Mmh.
Tu vois, là, le chardon, il est bien présent. L'année dernière, on avait les courgettes qui étaient ici. tout le bord aussi. Bon, là, c'est monté en graines, alors n'en parlons même pas. Mais bon.
Et après, du coup, là, il y a de l'arrosage avec des tuyaux. Là-bas, il n'y en avait pas.
Là-bas, non, on les a pas encore installés, mais parce qu'en fait, à cette période-là, on n'arrose pas trop, l'herbe pousse pas trop non plus, et du coup, vu qu'on n'a pas de bâche plastique, eh ben, il faut désherber à la main. Quand on a mis son goutte à goutte, eh ben, il faut se le retirer, se le remettre, c'est de la manutention en plus. Ouais. Donc c'est vrai qu'à cette période-là, on se précipite pas tout de suite sur le fait de mettre du goutte à goutte, parce que une petite aspersion de temps en temps, ça suffit déjà largement. Après ici ça a été désherbé et dans cette serre là on a plus de problèmes d'humidité parce qu'en fait c'est la toute première serre et sur la rangée après à droite là il y a des arbres et donc le matin on a la lumière qui arrive très tard dedans. Ça met plus de temps à se réchauffer, à évacuer l'humidité et tout ça.
La bâche est plus opaque.
Ils ont fait un test en fait.
Ah ouais.
Parce que toutes les serres c'est des différents constructeurs de serres et différents trucs. Il y a des ouvertures latérales, des ouvertures au fêtage. C'est pour permettre justement aux porteurs de projet de voir la différence entre les serres pour qu'ils puissent par la suite faire leur choix définitif. Et donc là c'est ouverture au fêtage. Donc du coup pour évacuer l'humidité, la chaleur et tout ça, ça peut faire que par le haut. Après c'est l'idéal hein, parce que la chaleur vu qu'elle monte, dans tous les cas ça part plus vite. Mais moi, je trouve quand même que ça respire un peu moins que les ouvertures latérales. Les ouvertures latérales, on peut les laisser un peu ouvertes, c'est pas bien grave. Ça, quand il flotte, il faut fermer, il faut on court, on se dépêche à droite, à gauche. Ça déraille, il faut monter là-haut avec l'échelle pour remettre les mâches.
Donc ça, c'est la deuxième serre. Il y en a une troisième en culture.
Et il y a la troisième qui est de l'autre côté.
Plus l'hectare entier de...
Plus l'hectare, ouais. On pourra y aller faire un petit tour si tu veux. Parce que du coup, c'est pas au même endroit exactement. En fait, là, il y a... L'endroit où on est, c'est l'espace bureau, hangar, stockage et les serres. Et le plein champ, en fait, il n'est pas si loin que ça à vol d'oiseau, mais en voiture, il faut faire un petit tour. On en a pour 3 minutes, quoi. Mais en fait, officiellement, il est juste derrière, là. Tu verras quand on va sortir de la serre. Il y a des panneaux solaires qui appartiennent à Leclerc.
Des panneaux solaires de Leclerc.
Ah, juste ici, regarde, il y a un champ de panneaux solaires.
Et c'est quoi ? C'est de la prairie en dessous ?
Et en fait, ouais, c'est de la prairie. Il y a des brebis qui viennent pour venir manger un peu là et entretenir aussi le dessous.
Et
en fait, là,
et tout c'est ça... Leclerc qui est propriétaire d'un parc de production d'électricité.
Et oui, parce qu'ils sont mis à faire de l'énergie verte. Ils ont des contrats maintenant comme EDF, comme Direct Énergie et tout le bazar. Là. Et donc, il y a le gros Leclerc là, qui est à Gaillac. Et bien, ils revendent de l'énergie. Ils foutent des panneaux solaires partout. Et au-delà de ça, ils ont même construit, donc on verra ça sur le chemin, ils ont construit des hangars qui pourraient être des hangars de stockage agricole ou quoi. Il n'y a rien qui est en dessous. Il y a juste des panneaux solaires. En fait, c'était l'argument commercial de dire on va faire des hangars de stockage, tout ça. Il n'y a jamais rien eu en dessous, juste il y a des pentes énormes de panneaux solaires sur tous les bâtiments où caméra, il y a marqué interdit d'entrée et tout le bazar. Donc, bon business de l'électricité à Gaillac.
Donc, on a ce fameux... va sauver le monde hein, grâce à ça, je pense. Hein.
Ouais. Non ouais. Donc, on a notre champ qui est juste après les panneaux solaires. Et on peut aller voir la troisième serre.
Et ça, c'est les serres des collègues.
Ouais. Donc là,
c'est moins bien à l'intérieur.
Non,
ils assurent moins ou quoi ?
C'est tout aussi bien.
Ah, il y a du plastique, il y a du bâchage plastique.
Et bien ici, on est sur une collègue qui travaille en méthode fortier, justement.
Ah, d'accord.
Donc elle a arrêté le tracteur, principalement.
D'accord.
Et elle travaille ses planches, du coup, au motoculteur. Et donc elle, c'est un bon exemple d'intensification parce que sous serre, là, justement, elle fait rentrer 8 planches, elle. Donc des plus petites. Donc elle met moins de légumes, on va dire, par rapport à la...
Ah oui, vous en avez que 5 à lui.
Et nous, on en a que 5. Donc c'est vrai que du coup, elle, sur 3 serres, elle a 3 fois 8. Nous, on a 3 fois 5. Mais il y a des très bonnes choses à prendre. Et c'est vrai que là, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait d'être à plusieurs sur cet espace ici, c'est vachement enrichissant parce que... On a des méthodes différentes, on a une approche différente, une expérience différente. Et à la fois, on arrive à se nourrir un peu de tout ça et à faire une sorte de grosse tambouille pour après se dessiner notre propre façon de faire. Ça, c'est la serre de Sandrine. La dernière arrivée, du coup.
D'accord.
Ça, c'est une serre de première année, on va dire. Et du coup, voilà, là, c'est typique de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec un projet, elle commence à se mettre en place, elle essaye, elle découvre. Comme nous, notre première année, où on part de rien. Parce que même si on a fait des stages, même si on a fait tout ça, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, on s'en rend pas compte.
Bon, et alors, donc, vous allez... quand tu disais que l'objectif, c'était s'installer, mais pas tout seul
Ça, on le réfléchit encore. Après, ça dépend, c'est vachement déterminé par rapport à l'endroit, aussi par rapport aux personnes avec qui tu le fais. Parce que c'est quand même ultra important de
bien sûr
que ça fonctionne avec les autres personnes. Et c'est vrai que nous, on a eu l'exemple des fois de personnes qui s'installaient avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'est quand même pas simple.
C'est un sacré pari.
Et c'est vrai que l'expérience qu'on a, nous, à l'essor, on, on est en collectif, on ne travaille pas en collectif. On pourrait, parce que des fois on mutualise du temps de travail sur des plantations, sur des trucs comme ça. Et c'est vrai que là, en fait, c'est un collectif non choisi, parce que c'est pas nous qui faisons la sélection. Et ça peut être à double tranchant, quoi. Ça peut très bien se passer avec les personnes, comme des fois, moyen. Donc c'est pour ça que le collectif, il faut faire attention. C'est un super outil dans la gestion du quotidien, parce que là, c'est vrai que l'avantage qu'on a ici, c'est que les week-ends, on se fait des gardes. Et donc, il y a une demi-journée sur le week-end qui est prise pour venir faire un tour, ouvrir les serres de tout le monde. Et après, l'autre jour et demi, on peut se reposer
ou travailler.
Alors, dans cette dernière serre, on a des épinards à nouveau.
Ouais.
On a des salades, mais c'est fini
pour elle. Celle-là, c'est fini pour elle.
Après,
de la mâche. Ouais.
De la salade avec un petit peu d'herbe autour.
D'herbe.
Celle-là, il y a du taf un peu. Hein.
Enfin, celle-là, on l'a laissé vivre.
Voilà, elles sont prêtes, donc ça sert plus à rien de désherber. Là.
Non, voilà, c'est ça. Par rapport au temps, et puis on aurait plus de chances de les abîmer si on devait passer au sarcloir.
Elles sont belles.
Et voilà. Et l'autre planche d'épinards. On a fait 3 séries d'épinards pour l'hiver. Pour jongler et en fait laisser le temps de... Et on en relance demain pour le printemps.
C'est ça, alors demain vous repartez dans des semis.
Oh oui,
60 caisses.
Dans les 3 serres, dans tout ce qu'on a vu, il n'y a pas de semis direct.
Il y a eu la planche sur compost de déchets verts.
Ah voilà,
en fait.
D'accord. Ouais, c'est ça. Et sinon, c'est que des mottes ensuite.
Bah après, ça dépend des cultures, mais en tout cas, cette période-là, là, sur le automne-hiver, on va dire, c'est principalement de la motte. On fait partir
ça. On aurait pu faire un semis de carottes en octobre.
On aurait pu, mais vu qu'on avait beaucoup de carottes dehors, on s'est dit qu'on allait garder la place pour une autre culture qui.
On les fait plus tard.
Ouais. Ouais, oui. Mais sinon, après, en semis direct, sous serre, bah, il y a les radis, les haricots aussi qu'on fait après, un peu plus tard pour le printemps.
La roquette,
j'ai fait, ça avait bien marché. Et le semis direct, c'est quand même très intéressant en termes de... Enfin, moi, je trouve que les cultures sont beaucoup mieux implantées. Forcément, c'est logique. Hein, au lieu de semer une graine dans une petite motte de terreau, c'est de la tourbe, c'est un truc qui est totalement inerte.
Donc là, c'est ici que se passent les semis.
Exactement. Une petite pépinière.
Donc quand tu dis que demain vous allez faire
60 caisses.
60 caisses comme ça.
Ouais.
Ça va représenter, je pense, à peu près toute la table.
Donc là, c'est des nappes chauffantes. En fait.
Et alors, bon, ça, c'est. En gros,
on
ça,
a
c'est.
Trois
ouais.
De...
Nous, ouais.
Il y a la nappe officielle, on va dire. La nappe, le sponsor officiel des maraîchers qui ont des nappes chauffantes.
C'est les nappes bleues, là. C'est en grande partie les personnes ont ça. Enfin, moi, tous les maraîchers que j'ai vus, ils avaient ce genre de nappe-là.
Ça ressemble à ça.
Les pépiniéristes et tout ça aussi.
Truc aluminium. Et...
C'est ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a une résistance. Tu vois. Et puis après, en fait, on branche ça à une prise électrique avec un thermostat. Et le thermostat, tu le plantes dans ta.
Dans la motte.
Dans ta motte. Tu demandes qu'il ça réchauffe à partir du moment où cette motte est descendue à tel degré en fonction de ce que tu as réglé et boum, les nappes elles s'allument. Et ça réchauffe jusqu'au bon moment. Voilà, donc ça c'est une nappe chauffante classique. Ici c'est du sable et il y a un fil chauffant dedans, donc pareil, une résistance. Comme à côté, sauf qu'au lieu d'avoir l'alu entre les deux, bah, c'est du sable. Et là, ça c'est du plancher chauffant. En fait, j'ai récupéré ça, c'est mon beau-frère lui, qui est dans le bâtiment, il avait du plancher chauffant. Et en fait, c'est des trames, tu vois, elles sont dessinées là. Ouais. Et pareil, encore une fois, c'est une petite résistance. Et ça coûte beaucoup moins cher que ces trucs spécialisés maraîchage.
Plancher chauffant.
Ouais, et ça fonctionne de la même manière.
Conso électrique.
Conso électrique.
Pas tant que ça.
Ouais.
Pas tant que ça.
Non. Ben, en fait, c'est très ponctuel malgré tout dans la saison. Tu as vraiment un gros moment où tu vas les faire fonctionner.
Ça va être là à partir de janvier.
Ça va être de janvier jusqu'à mars.
On lance les tomates après en février.
Jusqu'à mars-avril. Ouais. On va dire jusqu'à ce que les tomates soient plantées sous serre, les premières. Donc c'est début avril, tu vois. Et donc,
début avril dans les serres.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Donc, les seins de glace mimés.
L'année dernière,
on a encore des risques de.
Ah, totalement. Ah, bah, l'année dernière, on est tombé en plein dedans. On a planté nos tomates, tous les légumes d'été sous serre, les premières séries.
La semaine d'après, ils annonçaient moins 4.
Mais alors que le.
Vous avez fait ?
On a mis des voiles.
Ah ouais.
On a voilé, on a fait. Alors, il y a aussi une préparation en biodynamie, ça s'appelle. C'est du jus de valériane. Et la valériane, je crois qu'elle a tendance à mobiliser le phosphore. Il y a un élément particulier qui a tendance à réchauffer les molécules de la plante. Et donc, elle est moins sensible au gel. Et c'est vrai qu'on a pu faire l'expérience quand même l'année dernière sur des cultures dehors. Ça n'a pas bougé d'un poil, quoi.
Non, sur les fèves.
Bon, après, les fèves, c'est quand même assez résistant. Mais tu vois, par exemple, tu prends les carottes, les fans qui étaient encore magnifiques en mars, on aurait pu continuer de faire des bottes de carottes avec nos fans avec nos carottes de conservation qu'on avait semées en juillet avant, quoi. T'es là, bon, ça s'est bien tenu. On a gardé tout au champ principalement, pas eu de dégâts. Bon, après un peu des rongeurs et tout ça, mais bon.
Après, ça fait partie du jeu.
Mais ouais, du coup, après là, le chauffage, ça va être ponctuel à certains moments, ou sinon après à d'autres périodes, ça va vraiment être juste pour lancer la germination de la graine. pour avoir un climat vraiment favorable à la germination. Et puis après, quand ça a commencé à lever, ça fait sa vie. Comme quand c'est planté dehors, de toute façon, et que ça varie en fonction des aléas du temps, de température et tout ça.
Un grand merci à vous, Lola et Alex, pour votre accueil à l'essor maraîcher de Gaillac. Merci aussi à mon père et à Caroline, que vous avez pu entendre en début d'épisode, vous lire un extrait du livre d'Adrienne Cazey, « Quand nous avions tant de racines ». On se retrouve prochainement pour la dernière partie de cette visite chez Alex et Lola, que vous pouvez, en attendant, retrouver sur le marché bio du jeudi soir, à Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne. L'Avenir est à la campagne est un projet artistique de territoire porté par l'Été de Vaour et piloté par la compagnie Les Funambules, en partenariat avec la communauté de communes du Cordet et du Causse, l'ADA du Tarn, la DRAC Occitanie, CFM Radio, le Théâtre du Colombier et la Talvera. Vous retrouvez toutes les infos sur le projet sur le site lesfunambules.fr. Merci à Rix pour l'habillage musical et à la Talvera pour la chanson originale du générique. A très vite pour la suite.
C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux, s'ils le sont, c'est malgré eux.
L'avenir est à la campagne.